à toutes et à tous, vous êtes sur Plume FM sur le 107.8 à Redon. Nous sommes les membres de Radio Beaumont News, la radio des lycéens de Beaumont. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour enregistrer une nouvelle émission. Moi, c'est Julia et je suis avec Fanette, Nils, Jessie, Lucas, Lou et Michael. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, nous allons parler sport et engagement en commençant par Fanette et Nils, qui nous parleront du bienfait du sport chez les jeunes. On continuera avec des chroniques davantage centrées sur des portraits de sportifs, avec Rudy Gobert par Nils et Greg Oden avec Jessie et Lucas. Puis, Michael nous parlera d'une date importante dans l'histoire du sport, celle des JO de 1968 au Mexique. Cela permettra aussi d'aborder la question de l'engagement dans le sport, quand la politique se mêle au sport. Et pour terminer, Lou et moi vous parlerons toujours d'engagement, mais chez les jeunes du lycée de Beaumont en particulier. Commençons par vous, Nils et Fanette. Vous allez nous parler des bienfaits du sport quand on est jeune. Pour cela, vous avez été interviewé des enseignants du lycée Beaumont.
Bougez, 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 bougez.
Merci Julia, et comme vient de nous le dire Magic System, il faut bouger. Aujourd'hui, nous allons vous montrer pourquoi avoir une activité physique quotidienne, c'est important. Nous en avons donc profité pour aller interviewer des professeurs du lycée Beaumont afin de comprendre pourquoi c'est important de faire du sport quand on est jeune. Merci d'avance à Madame Stienne, professeure d'SVT, et Monsieur Maurice, professeur d'EPS, d'avoir répondu à nos questions.
Bougez, bougez !
Pour commencer, qu'est-ce que le sport ? Comment définir correctement ce terme ? D'après le Larousse, le sport est une activité physique visant à améliorer la condition physique. Qu'est-ce qu'une activité physique ? Toujours selon le Larousse, l'activité physique, c'est lorsque des muscles squelettiques produisent n'importe quel mouvement corporel qui nécessite une dépense d'énergie. Donc les termes activité physique ou éducation physique sont des termes génériques qui peuvent être facilement et régulièrement associés au sport puisqu'ils restent dans le principe de bouger son corps. Pour mieux comprendre l'importance du sport dans notre quotidien, on peut citer l'exemple de Santé publique France qui a carrément lancé une campagne en 2022 pour inciter les enfants et adolescents à faire du sport et à se bouger. Et le problème de la France n'est pas difficile à déceler quand on sait que les jeunes de beaucoup de pays, notamment les États-Unis ou l'Allemagne plus proche de nous, consacrent toutes leurs après-midi aux activités sportives.
Revenons au sport et à ses bienfaits. Nous avons demandé à deux de nos enseignants de nous dire un peu plus à ce sujet, notamment d'un point de vue physique et moral. Voici la réponse de Madame Stienne.
Alors, je ne suis pas forcément la meilleure placée pour ça. Hein. Je ne suis pas médecin du sport ou quoi que ce soit, mais il me semble que c'est important pour justement leur équilibre, leur dépense énergétique de la journée, pour se poser, pour se faire des amis. Ça me paraît important. Physiquement, c'est important hein, par rapport à notre mode de vie sédentaire. Les enfants, par exemple, sont à l'école assis sur une chaise toute la journée. Donc, il y a un moment donné où il faut faire bouger son corps. Et puis, moralement, ça permet aussi de décrocher un petit peu, de s'évader, de penser à autre chose.
Notre professeur aborde le sujet de la sédentarité. C'est important parce que la sédentarité a un impact considérable sur les ados depuis quelques années. Elle est en augmentation avec l'âge et le temps. Une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et alimentaire, l'ANSES, annonce que les deux tiers des ados de 11 à 17 ans sont trop sédentaires. Conséquence de la crise du Covid avec le confinement, où les gens ne pratiquaient plus d'activité sportive et où les écrans sont une autre cause de sédentarité. Car 70% des ados y passent au moins 3 heures par jour. Et la sédentarité est un cercle vicieux, car moins on bouge, moins on a envie de bouger. Et moins on a envie de bouger, moins on bouge.
Abordons maintenant un aspect plus scientifique et plus positif. Le sport favorise les hormones du bonheur. La libération d'endorphines, de sérotonine et de dopamine crée un sentiment d'apaisement, d'épanouissement et donc dans la continuité de joie. Ça a un impact positif évident sur le niveau de stress qui baisse, la diminution d'anxiété au quotidien. Quand nous pratiquons du sport, nous ne pensons plus à nos petits tracas. Le sport est une vertu pour la dépression et pour les addictions comme le tabagisme. Il soigne la dépression en apportant des moments de plaisir, en passant moins de moments seuls ou à ne rien faire et donc moins de culpabilité.
Écoutons maintenant Monsieur Maurice, professeur de sport, qui nous explique les vertus du sport selon lui.
Alors, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Il y a le développement des ressources énergétiques, forcément, puisque vous êtes en construction, que ce soit votre squelette, vos tissus mous, vos muscles. Donc vous avez jusqu'à 20-25 ans pour développer votre système cardio-respiratoire, votre ossature. Donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez avoir des contraintes, plus vous allez capitaliser une santé qui va de toute façon qui va s'altérer au fil du temps. Donc plus on capitalise fort, plus on peut espérer vivre longtemps en bonne santé. Donc c'est peut-être la première bonne motivation à chausser une paire de baskets. C'en est une en tout cas. Mais il y en a d'autres, peut-être plus psychologiques. C'est une période où on se cherche, où on est en construction identitaire. Et le sport, c'est une occasion de se frotter à des limites, à nos limites, de se confronter aux autres, de se trouver soi-même, de découvrir d'autres cultures. Hein. Ça peut être... Si on est plutôt dans la campagne et qu'on va faire un sport à la mer, et ben voilà, on ouvre un peu nos champs culturels. Donc, il y a plein de vertus.
La période jusqu'à 20-25 ans est donc essentielle pour notre corps. Il faut donc la consolider la plus possible. De plus, selon The Lancet, une revue médicale britannique, le sport permet d'augmenter l'espérance de vie. 15 minutes de sport par jour allongerait notre vie d'environ 3 ans. Pour l'info, le sport qui augmenterait le plus la longévité est le tennis. Car cette pratique, comme beaucoup d'autres, diminue les risques de cancer, des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, etc.
Après, on peut encore ajouter qu'avec une pratique physique régulière, il y a une plus grande résistance aux infections, aux rhumes, à la grippe. Cela aide à la prévention et au soulagement des douleurs chroniques, articulaires ou musculo-squelettiques. Autre fait important pour nous, en tant qu'adolescents et lycéens, après un effort physique, nous avons une amélioration de notre attention et de notre concentration. En plus, le sport permet de rendre notre sommeil de meilleure qualité. Quand nous nous sommes bien défoulés, nous nous endormons plus vite, nous atteignons rapidement une zone de sommeil profond et donc nous nous réveillons moins fréquemment.
Enfin bon, si avec toutes ces raisons vous n'êtes pas convaincu par les bienfaits du sport, nous ne savons plus quoi faire de plus. Et encore, nous pouvons aussi parler de l'impact mental. Voici ce qu'en dit Madame Stienne.
Il y a des élèves qui ressassent beaucoup ce qui s'est passé à l'école dans la journée. Et aller au sport après les cours, ça peut être un moyen aussi d'évacuer avant peut-être de se remettre au travail un peu plus tard et donc d'avoir une pause, une vraie pause, mais en dehors de son écran, par exemple. De vraiment déconnecter son cerveau et que l'ensemble de son organisme soit consacré à l'activité physique. Ça libère, je pense, un peu l'esprit.
Ainsi, le sport est essentiel pour notre santé physique, certes, mais aussi mentale.
Pour en aider certains qui aimeraient se mettre au sport, nous avons demandé à nos professeurs des conseils pour le meilleur sport pour débuter. Et honnêtement, la réponse ne nous a pas trop étonnés.
Alors j'aurais tendance à dire la course à pied puisque c'est quand même le moins onéreux, mais en même temps, il y a toujours cette notion de plaisir pour fidéliser la pratique, il faut quand même avoir du plaisir. Et là, il faut prendre en compte l'identité du jeune. Ceux qui ont besoin d'être dans du collectif, eh bien forcément, vont avoir une appétence pour les sports co. D'autres vont être plutôt attirés vers quelque chose d'artistique, de créatif. Il n'y a pas de conseil à donner, si ce n'est essayer de se connaître soi-même pour voir ce qui nourrit la personne qu'on aime bien en nous.
Autre question que nous nous sommes posée, combien de temps de sport par semaine conseillerait-il à un adolescent pour une bonne santé ?
Après, s'il faut de l'activité physique, en fait. Le sport, c'est une... Peut-être qu'on ne parle pas exactement de la même chose, mais il faut bouger. Il y a des individualités différentes, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, mais il faut bouger tous les jours. Plus d'une demi-heure par jour, voilà.
Donc, une demi-heure, c'est un minimum. D'autant plus que dans les écoles élémentaires, il y a 30 minutes par jour d'activité sportive généralisée. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans une pratique d'au moins une heure par jour d'activité physique. Malheureusement, seulement 20% des jeunes suivent cette instruction.
Écoutons la réponse de Monsieur Maurice qui n'est pas forcément courante, mais pour autant, elle est très intéressante dans le sens où on a tendance à oublier un peu trop ce côté-là, le repos.
Alors là, il y a un biais dans cette question parce qu'on va associer la santé à la pratique du sport et c'est pas forcément évident. Moi, je me souviens qu'en STAPS et aujourd'hui encore, on nous invite à réfléchir à la santé, mais en fait, on nous demande que de pratiquer. Et en fait, avec l'expérience, je me suis aperçu que pour être en bonne santé, il suffit pas de pratiquer, il faut absolument être vigilant pour équilibrer le temps de pratique et le temps de relaxation. Et si vous voulez être en bonne santé physique et mentale, il faut absolument faire ce combo des deux, c'est-à-dire si je charge mécaniquement mon corps d'une heure de travail, bien derrière, peut-être qu'il faut 5 minutes de relaxation, d'étirement.
L'éducation sportive nous apporte aussi des aptitudes sociales. Madame Stienne nous dit lesquelles.
Bien sûr, il y a des aptitudes individuelles, de capacité physique, mais aussi les capacités psychosociales, d'être avec le groupe, de se faire des copains, de respecter les règles ensemble. Dans toute activité physique et tout sport, en tout cas, il y a des règles. Et ça permet aussi de développer tout ça, l'entraide. S'il y a un copain qui arrive moins bien, on le soutient, etc. etc. Donc c'est toujours positif, en fait.
Enfin, nous leur avons demandé une phrase de motivation pour motiver et se mettre au sport.
Dire c'est bon pour la santé, est-ce que ça peut convaincre j'en sais rien. Est-ce que ça peut convaincre un ado Je pense qu'il faut l'y amener. Il faut l'emmener avec un copain. Allez, vas-y. L'encourager à y aller, et c'est en le faisant qu'il va découvrir que c'est important pour lui.
On retiendra donc qu'il faut se motiver à faire du sport dès maintenant. Quand vous aurez commencé, vous voudrez forcément continuer. Pour se motiver, il faut peut-être quelques encouragements de l'entourage, et pourquoi pas débuter à plusieurs. Le collectif, c'est toujours bénéfique, et le fait de se donner des objectifs, ça peut aussi booster. Et attention, il ne faut pas choisir une discipline seulement pour les aptitudes qu'elle peut apporter. Il faut aussi que ça reste un choix personnel, parce que le plaisir doit être un point central de la pratique d'une activité physique et sportive pour le bon épanouissement.
Tout le monde peut trouver un sport qui lui convienne.
Et si vous faites partie d'une famille qui a des difficultés financières ou pour des raisons de transport, ce n'est pas possible d'être affecté dans un club, le lycée propose tous les midis des sports, donc il ne faut pas hésiter à aller se renseigner sur l'AS de Beaumont.
Et alors non, on ne vous demande pas dès demain d'aller vous inscrire dans un club ou à la salle de sport, mais seulement de réfléchir et de penser à tous les arguments qu'on a pu avancer. Et pourquoi pas de simplement faire plus de marches dans la journée, plus de trajets à vélo, ça vous fera du bien et ça fera également du bien à la planète. D'ailleurs en mai, sur Redon, c'est le mois du vélo, avec tous à vélo. Alors n'hésitez pas à chausser vos baskets le plus rapidement possible et surtout, n'oubliez pas...
Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur.
Merci à vous. Maintenant, on n'a plus d'excuses pour ne pas se mettre au sport. Nils, tu restes avec nous, tu vas nous faire le portrait d'un basketteur, Rudy Gobert.
Bonjour. Alors, pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir le sportif Rudy Gobert.
I mean, there's a difference between being the reason that you win and being the reason that you don't lose. And Rudy is the reason that we don't lose. You know, he doesn't let us lose these games. He's been this way all season. He's an incredible floor raiser.
Cette phrase a été prononcée par Chris Finch, l'entraîneur des Timberwolves du Minnesota, le 4 décembre 2023. Rudy est la raison pour laquelle nous ne perdons pas. Voilà qui en dit long sur ce sportif. Ah, Rudy Gobert, grand champion de basketball, en particulier aux États-Unis, où il y fait sa carrière en tant qu'intérieur. Mais c'est surtout notre héros international, car oui, Rudy Gobert compte aujourd'hui 100 sélections avec l'équipe de France masculine de basketball. Mais revenons un peu plus sur son parcours. Rudy naît le 26 juin 1992 à Saint-Quentin, où il grandit et commence le basket. Il signe son premier contrat pro à Cholet Basket et est repéré au bout de 2 ans par les Jazz de l'État de Utah à l'âge de 20 ans. En effet, il a fait une très grande partie de sa carrière là-bas, puisqu'il y a joué 9 ans, de 2013 à 2022. Il est actuellement chez les Timberwolves du Minnesota. Aujourd'hui, Rudy a 31 ans, il fait 2m16 et il a été élu 4 fois meilleur défenseur de la NBA. Mais Rudy n'est pas seulement un sportif hors norme, c'est aussi un homme qui pousse les autres à faire du sport et se bouger un minimum chaque jour. C'est pourquoi il a sorti un film en 2023 pour « inspirer la jeunesse selon ses dires ». Ce film est notamment passé sur France 3 et France Outre-mer. Rudy a aussi écrit en 2021 une BD qui se nomme « Bash » et avec un thème futuriste. C'est déjà la fin de cet épisode et je vous retrouve très très vite.
Merci Nils pour ce portrait. Je vais maintenant laisser la parole à Jessie et Lucas qui vont nous parler d'un autre sportif mais qui a malheureusement eu beaucoup moins de chance que Rudy Gobert. Il s'agit de Greg Oden.
Et oui, on va vous parler de Greg Oden, un joueur des années 2010 qui a connu une fin tragique. Blessure, dépression, alcool et le plus grand buzz de l'histoire. On a souvent entendu ces mots à son sujet, mais quelle est donc la réalité? Déjà, qu'est-ce qu'un bust? Un bust, c'est une personne choisie en première lors d'une draft, c'est-à-dire un choix saisonnier de nouvelles recrues à la NBA, mais qui se révèle finalement très décevant. Et oui, on peut qualifier sa carrière de décevante. Non parce qu'il était mauvais, mais seulement parce que son corps n'a jamais suivi. Il a enchaîné les blessures, tout d'abord au genou droit, pour ensuite partir dans le cimetière des basketteurs. Commençons d'abord par une citation de Greg Oden lui-même lors d'une interview aux médias Oops Hype en 2020. Je le cite. « Quand vous êtes blessé, vous vous sentez très seul et vous voulez être avec vos coéquipiers. Vous voulez être capable de réaliser les choses pour lesquelles on vous a recruté. voulait ramener un titre et faire de grandes choses sur le terrain.
Cette étoile montante, s'est-elle consumée toute seule ? C'est en tout cas ce que tout le monde dit. Mais avant de voir la mort d'une étoile, voyons peut-être sa naissance, non ? Greg Oden est né le 22 janvier 1988 à Buffalo, dans l'État de New York. Il commence à jouer au basket professionnellement en 2007, où il est choisi par les Blazers de Portland. Il est le premier choix de la draft 2007 et est même choisi devant Kevin Durant. À l'époque, le choix était discutable, mais quand on regarde les statistiques actuelles, Durant a beaucoup mieux réussi sa carrière. Oden était par exemple comparé à d'autres joueurs tels que Shaquille O'Neal ou même David Robinson.
Mais la première blessure est arrivée, en 2007. Greg retombe mal lors d'un saut, il se fait une micro-fracture au genou droit. Cela lui fait manquer toute sa première saison. Et ensuite, ça ne s'arrête plus. Il enchaîne les séjours à l'infirmerie avant de revenir sur le terrain, pour y retourner à nouveau, le 28 octobre 2008 au pied, le 13 février 2009 au genou à nouveau. Tout ça a profondément affecté le joueur américain. Il a arrêté sa carrière en 2016.
Il s'est senti inutile car incapable de faire son métier de basketteur. Il s'est plongé dans l'alcool, qui était pour lui un remède. Mais il a fini par se relever. Greg Oden doit beaucoup à son coach qui l'a poussé à revenir aux entraînements et à reprendre ses études. Cela l'a empêché de continuer à boire. Il a compris que ce n'était pas nécessaire et ça a probablement contribué aux résultats sur sa vie actuelle. Il a actuellement 36 ans comme Stephen Curry. La seule différence, c'est que Stephen a continué et est même considéré actuellement comme l'un des meilleurs joueurs de la planète avec un 3 points dévastateur. Aujourd'hui, Greg a l'air en paix avec son passé. Il est maintenant entraîneur. Il a dépassé son passé et en a fait une force. Il rit du mot « bust » en disant qu'il a eu une opportunité. Même si ça n'a pas marché, il a quand même été un bon joueur. Finalement, l'histoire ne se termine pas tragiquement. On peut même qualifier cela d'happy end.
Merci Jessie et Lucas. Malgré un début de carrière défaillant et un passage par l'alcool, Greg Oden a malgré tout su se relever. C'est un beau témoignage de ténacité. Je vais maintenant donner la parole à Michael. Tu vas revenir sur un événement qui a une importance capitale dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est celle du 16 octobre 1968. Qu'a-t-elle de spécial cette journée, Michael ?
Bonjour, je vais vous parler plus particulièrement des Jeux Olympiques de l'été 1968. Et je vais vous expliquer en quoi cet événement nous montre la spécificité de ces Jeux-ci, regardés et admirés dans le monde entier, et dont l'impact et de l'impact qu'il peut avoir sur le monde. Dans le public, les réactions étaient multiples. Étonnement, surprise, applaudissements, quelques cris de colère, de joie. Cette journée du 16 octobre 1968 prend un tournant majeur pour l'histoire des JO, montrant sous son grand jour une face cachée, mais pourtant bien réelle de ces compétitions. Si pour vous, les Jeux Olympiques ne sont qu'un événement sportif, laissez-moi vous montrer que c'est aussi un événement social et politique qui permet de mettre en lumière des inégalités. Retour en 1968. Une année marquée par des troubles sociaux, des manifestations contre la guerre du Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King Jr. En bref, c'est une année qui représente un contexte social tendu dans le monde entier. On est au JO de Mexico et tous les athlètes, blancs et noirs, portent un maillot où l'on peut lire « Olympic Projects for Human Rights » qui se traduit par « Projet Olympique pour les droits humains ». John Carlos, le coureur de 200 mètres, affirme qu'aucun sabotage ou boycottage ne sera effectué, mais que les Noirs souhaitent, je cite, « réaffirmer leur position face à leur injustice ». Cette réponse fait écho aux propos du sociologue afro-américain Harry Edwards, fondateur de l'Olympic Projects for Human Rights, qui encourage les sportifs noirs américains à boycotter les Jeux. Cet acte montre bien la volonté de ces athlètes à faire changer les choses sans user de la violence. Ils profitent de cet événement sportif pour s'affirmer d'une manière plus honorable, pour ne pas décrédibiliser leur combat, estimant ainsi que la violence envers leurs oppresseurs n'était pas la meilleure réponse à la violence que les Afro-Américains subissaient, en opposition avec la philosophie du mouvement des Black Panthers. La finale masculine du 200 mètres est finie. Le sportif afro-américain Tommy Smith arrive en première place et bat le record du monde à l'époque. John Carlos arrive en troisième place. Ces deux hommes montent sur le podium pendant la levée du drapeau des États-Unis et l'hymne national américain, accompagné de Peter Norman arrivé à la seconde place. Cette levée du drapeau américain est très symbolique. Elle affirme l'appartenance de ces deux afro-américains à la nation que sont les États-Unis. Après la fin de la course, les deux athlètes afro-américains retirent leurs chaussures et, une fois sur le podium, des poings gantelés sont levés vers le ciel mexicain par les grands vainqueurs de cet événement olympique. Ces fameux points étaient initialement appelés les points levés du Black Power. Pour rappel, le mouvement du Black Power, c'est un mouvement social des années 60 qui a pour objectif d'assurer la sécurité et l'autosuffisance des Afro-Américains, souvent pauvres et discriminés à cette époque. Malcolm X est un précurseur de ce mouvement et l'assassinat de cette figure politique des droits pour les Afro-Américains en 1965 sera un événement majeur dans l'évolution et l'influence du mouvement. Revenons maintenant au point levé du Black Power. Cette expression utilisée par les médias sera contestée par Tommy Smith lui-même, qui affirme dans son autobiographie Silent Gesture que ce n'est pas un salut du Black Power, mais un, je le cite, « un salut pour les droits de l'homme » qui dénonce en partie la situation des hommes noirs, notamment en Afrique du Sud. Ces propos de Tommy Smith ont été contestés par les médias et l'opinion publique en général, car les deux athlètes ont ensuite été exclus de l'équipe olympique des États-Unis, bannis des Jeux olympiques et ont reçu de nombreuses menaces de mort. Le comité olympique a considéré que les JO sont apolitiques et que leurs gestes n'avaient pas leur place dans ces Jeux. Il est donc normal de penser que ces sanctions qui ont détruit leur carrière sportive internationale ont pu les dissuader d'assumer la réelle connotation de leurs actes de protestation. Quoi qu'il en soit, cet événement inattendu des Jeux Olympiques de 1968 nous montre que le sport peut être social et politique dans certains cas, et que les Jeux Olympiques peuvent aussi être un bon moyen pour les athlètes de rendre hommage à un combat qui leur est cher. Ces Jeux Olympiques resteront gravés dans nos mémoires à tous, s'inscrivant comme étant un événement crucial dans la lutte contre la ségrégation des Afro-Américains aux États-Unis et plus globalement pour les droits humains dans le monde.
Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. She's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me 'cause you're playing with fire.
Merci Michael, c'est sûr que c'est compliqué d'être sportif et engagé, surtout si c'est pour faire l'objet de sanctions par la suite. Nous allons maintenant quitter le domaine du sport, mais rester sur celui de l'engagement. Et avec Lou, nous avons été promener notre micro auprès des jeunes du lycée Beaumont. Allons-y.
Ici, il y a vraiment un besoin de paix qui est légitime. Enfin, c'est indispensable, c'est nécessaire. Parce que sinon c'est... Enfin, les gens ils meurent... Allô.
Quel sujet touche particulièrement les jeunes? De quelle manière leur engagement se traduit-il? C'est ce que l'on a essayé de savoir, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Être engagé, c'est développer sa propre opinion sur un sujet, une cause, et la défendre via plusieurs biais, comme le simple fait d'en parler, ou encore de s'engager dans une association, etc. Selon l'enquête Jeunes de France, réalisée par le média The Conversation en octobre 2023, 6 jeunes sur 10 parmi les 18-24 ans se disent engagés, et cet engagement se fait notamment grâce au fait de se tenir informés pour 68% d'entre eux. Notre génération est effectivement sensibilisée à de nombreux sujets, contrairement aux générations précédentes, notamment grâce à l'école. En anglais, espagnol, en histoire ou encore en SVT, les programmes sont élaborés autour de thématiques comme l'environnement, la condition des femmes ou encore le racisme.
Selon The Conversation, l'environnement est aujourd'hui le sujet pour lequel les jeunes sont le plus engagés. Cela peut sûrement s'expliquer par l'impact futur et actuel du changement climatique, qui touchera particulièrement notre génération. Mais alors, qu'en pensent les lycéens de Beaumont et sont-ils engagés? Nous sommes allés les interroger sur cette question de l'engagement.
Parmi les sujets qu'ils défendent, nombreux sont ceux qui défendent et dénoncent la cause des femmes.
Bah, j'essaye d'être engagée auprès de la cause des femmes, notamment pour l'égalité, donc des droits.
Pour l'éducation homme-femme, la sensibilisation et participer à des associations qui contribuent à sensibiliser les gens vis-à-vis de pourquoi est-ce qu'on a des inégalités sociales, salariales, Pourquoi est-ce que c'est important de nous considérer tous égaux ? Vous pouvez développer des projets de sensibilisation qui s'appellent le Parallèle. C'est un tiers-lieu associatif où tu peux y aller pour développer des projets et tu peux en faire en fonction de la portée que ça aura. Tu peux en faire des conférences, tu peux en faire des projets avec des groupes pour en parler, des sujets de discussion.
Le fait de stopper les féminicides en France ou même ou dans le monde entier, parce que déjà en France, il y en a énormément, il y en a plus d'une centaine par an. Mais dans les pays comme le Brésil, c'est plus de 10 000 par an. Donc ce serait justement faire en sorte que ça s'arrête et que les policiers soient formés pour stopper ça et puis vraiment correctement gérer les situations, quoi.
Avec d'autres élèves de première, on a fait un projet Amnesty qui nous a été proposé en classe d'HLP. Et le but, c'était d'écrire pour le droit des femmes, pour le 8 mars, et spécifiquement les femmes iraniennes et afghanes, qui ont très très peu de droits. C'est de défendre cette cause de notre point de vue, parce que nous, jeunes occidentaux et occidentales, c'était assez compliqué d'avoir un point de vue sur ça, mais c'était de se renseigner aussi et de pouvoir parler de causes qui, concrètement, dans la vie de toujours, ne nous concernent pas, mais qui sont extrêmement importantes dans la lutte pour le droit des femmes. Donc je dirais que le féminisme, c'est extrêmement important pour nous.
Moi, ça serait le féminisme, l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, c'est important que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité, que ce soit au niveau du lycée ou même dans le monde du travail, plus loin, l'égalité des salaires, même l'égalité d'être accepté dans les mêmes écoles, dans les mêmes formations, parce que je sais que des fois, pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, faudrait travailler là-dessus. Faire en sorte que ça change.
Moi, je pense que le viol en France, il est pas assez puni, parce que quand on voit qu'un mec qui a fait un crime pas si grave, genre par exemple du vol à l'étalage ou un truc comme ça, même si c'est multiple, je trouve qu'il est puni assez sévèrement. Quand on voit les conditions de pourquoi il a fait ce vol-là, que ce soit pour survivre ou autre chose, la plupart du temps, c'est pas mérité ce qu'il prend. Alors qu'un violeur, je sais même plus c'est combien la peine, mais tout ce que je sais, c'est que c'est pas assez. Je crains vraiment parce que c'est un viol et souvent les gens ils voient que le crime ponctuel, c'est-à-dire juste le viol, mais ils pensent pas à la personne qui est délaissée après, qui a les traumatismes et tout ça.
Ou encore le racisme.
Alors moi je lutte contre le racisme. Je considère que toutes les personnes sur cette planète devraient être libres et avoir les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes choix, les mêmes opportunités. Et ne pas être discriminé à cause de sa couleur de peau.
Je pense qu'on pourrait parler de l'égalité, par exemple, raciale, qui est encore, y a encore quand même de gros progrès à faire, je pense, surtout par exemple aux États-Unis. Si je prends le cas de George Floyd, vraiment, par exemple, dans les années 60, on sait très bien que des personnes noires ne pouvaient pas rentrer dans un bar, par exemple, qui était réservé aux blancs, et aujourd'hui c'est plus le cas, mais il y a quand même de très gros progrès à faire là-dessus, je pense, parce que certaines personnes noires en fait ont beaucoup moins de droits que des personnes blanches.
Alors, l'organisation et le fonctionnement scolaire.
Alors moi, je voudrais défendre la cause pour l'égalité à l'école, et parce qu'on n'a pas tous les mêmes égalités, les mêmes chances de réussir, et Parcoursup en plus c'est hyper stressant avec le bac. Faudrait vraiment que ce soit l'égalité pour tous. Au même niveau, parce que sinon on peut pas réussir dans les études et tout ça.
Par exemple, au lycée, on est un peu tous d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de charges de travail en termes de temps. On peut avoir entre 5 heures et 8 heures de cours par jour, au minimum 5 heures à 4 heures, ce que je trouve assez énorme. On sait tous qu'un élève, en fait, il peut pas se concentrer plus de 45 minutes non-stop, donc déjà, c'est déjà assez long. Et ensuite, des meilleures conditions de travail en termes d'ambiance, d'atmosphère avec les professeurs.
Du coup, moi, ce que je défends, c'est qu'on devrait avoir plus de temps libre, moins de cours, ou des cours plus ciblés, plus concentrés, mais on n'a pas assez de temps pour faire des choses à côté. Je sais que on est pas mal à faire du sport à côté, mais déjà, en fait, après, on n'a plus le temps de faire nos devoirs. Bref, on est overbooké, quoi. Alors qu'il faudrait dégager du temps pour qu'on puisse faire des activités, mais ça soit culturel, aller au théâtre, faire du sport, quoi que ce soit, quoi. C'est pas en nous mettant plein de devoirs et plein d'heures de cours qu'on va réussir mieux dans la vie. Voilà, c'est ce que je pense.
Les droits humains et la paix.
En ce moment, on peut parler surtout de la paix, notamment en ce qui se passe au Moyen-Orient avec le conflit israélo-palestinien. Et en fait, je trouve que ce conflit, il est très compliqué parce que le Premier ministre israélien qui continue à bombarder la bande de Gaza, puis maintenant Rafah, alors que la majorité sont des civils et c'est entre guillemets pour toucher les gens du Hamas, alors que en soi, il y en a beaucoup moins que des civils. Il y a déjà plus de 30 000 ou 40 000 morts, il me semble. Donc ici, il y a vraiment un besoin de paix qui est légitime. Enfin, c'est indispensable, c'est nécessaire. Moi, je pense que ici, là, la paix, c'est vraiment ce qu'il y a besoin. Même entre le conflit russo-ukrainien, qui est terrible également, et puis même toutes les guerres civiles en Afrique qui animent le monde. Enfin, moi, je trouve ça. Quand est-ce qu'on peut avoir une vraie paix, en fait, une paix durable, et non plus guerre de territoire, guerre de religion, etc. Enfin, les guerres, elles ont plus vraiment de. Il n'y a plus vraiment de défaite, il n'y a plus vraiment de victoire. C'est une paix qui n'existe plus vraiment. Enfin, c'est les nouveaux conflits. Voilà, c'est les nouvelles conflictualités.
La cause que je défends, c'est les droits humains en général. Parce qu'actuellement, dans le monde, il n'y a pas un seul endroit où l'égalité, la liberté, la sécurité est parfaite. On est toujours, l'humanité est toujours dans le mal, entre guillemets. Même dans des démocraties, ici, on peut se penser à l'abri, mais on voit qu'il y a toujours des discriminations envers les femmes, les homosexuels, les étrangers. Et on est un des pays les mieux lotis, on va dire. Donc ça veut dire que la situation dans le monde, elle est catastrophique, mais elle l'a toujours été. Et on a l'impression qu'on avance, mais en même temps qu'on avance, il y a de la régression. Donc c'est vraiment l'humanité en général, et la justice, la paix, etc. Voilà, c'est tout.
Donc moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Diwen Mada. Et en fait, le but, c'est de collecter des fonds pour une école à Madagascar. C'est une école associative qui permet aux enfants des quartiers les plus défavorisés d'avoir accès à l'hygiène, de la nourriture chaude tous les jours et une éducation. Et donc, on a réussi à faire plein de choses, plein d'actions. Et notamment, là, il n'y a pas longtemps, il y a une partie des élèves qui apprennent à faire de la cuisine. L'école se développe. Ils ont permis d'aller dans des grands salons en France pour apprendre la cuisine avec des grands.
Lou et moi ne donnons jamais notre propre opinion dans nos podcasts, mais comme notre sujet parle d'engagement, il nous paraissait important de le faire ici. Ça en fera un peu la partie coup de gueule de notre podcast. Donc vous avez entendu des témoignages, mais beaucoup de lycéens que nous avons interrogés n'ont pas su trouver ce pourquoi ils étaient engagés ou les raisons pour lesquelles ils ne l'étaient pas. Pour ma part, peut-être que certains n'ont pas répondu par timidité, mais je dois avouer que je ne comprends pas, voire que je trouve ça choquant, qu'aujourd'hui, on puisse ne pas être engagé. Pour moi, à partir du moment où l'on s'informe, on a forcément une opinion. Et la défendre, c'est déjà une forme d'engagement. Le monde ne sera évidemment jamais parfait, mais tout peut toujours être amélioré, et l'engagement est la première voie pour changer les choses. Donc les élèves que vous avez écoutés l'ont dit, on fait face à beaucoup d'injustices et d'événements anxiogènes en ce moment comme les guerres, la crise climatique ou encore la condition des femmes, et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui n'importe quelle fille se questionne sur si elle peut sortir seule ou non, ou sur si ce qu'elle porte est trop court ou non, et ce n'est pas normal de voir que des guerres ont encore lieu aujourd'hui ou que certaines personnes trouvent encore que l'écologie est un sujet secondaire dans nos vies, alors que l'environnement devrait être une priorité absolue. On peut parfois choisir de s'écarter de l'information pour se préserver, ce qui est complètement compréhensible au vu du bombardement informationnel dans lequel nous vivons. Mais il est, je pense, essentiel de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous et en dehors de notre pays, parce que, malheureusement, si personne ne s'engage, on n'avancera pas, et compter sur les autres ou faire l'autruche n'est pas la solution. Et je sais qu'on nous bassine beaucoup au collège, au lycée et dans la vie de tous les jours avec certains sujets, mais c'est important de continuer à le faire parce que c'est que comme ça que les générations futures prendront conscience des schémas à ne pas reproduire. Je ne dis pas que ne pas faire partie d'une association ou ne pas aller manifester, ce n'est pas être engagé, puisque moi-même je ne suis pas engagée à ce point-là, mais j'aimerais surtout sensibiliser sur le simple fait d'abord de s'informer, de se construire un avis, de le défendre et pourquoi pas ensuite de commencer à faire des petits gestes à son échelle. On sait par exemple que les élections européennes approchent et qu'il est important d'aller voter, sachant que le vote est la première source d'engagement chez les jeunes.
Pour ma part, je ne suis pas engagée dans une seule cause en particulier, mais je pense qu'il est important de soutenir plusieurs causes à la fois. Comme par exemple se battre pour l'égalité des sexes, l'écologie, ou encore pour l'égalité pour l'accès à l'éducation à tous. C'est aujourd'hui quelque chose de si important que je n'en défends pas une plus qu'une autre. S'il y a une injustice, c'est qu'il y a forcément quelque chose à débattre, à défendre. De plus, beaucoup de lycéens que nous avons interrogés nous ont dit ne pas être engagés, comme Julia l'a rappelé. Ça m'a énormément choquée. Ça veut dire que pour eux, le monde dans lequel on vit est parfait et qu'il n'y a donc aucune égalité ?
inégalité. Non, évidemment. En attendant, merci aux élèves d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous laisse avec cette phrase d'une élève du lycée.
Je pense qu'il y a une grande part du fait de s'investir dans des causes qui est au quotidien des petites choses, mais qui font que en fait c'est par ça que ça passe. Je sais pas, la sensibilisation en général, quand t'as des mecs dans ta classe ou des meufs qui te lâchent des dingueries sur l'égalité entre les hommes et les femmes, il y en a qui te disent que bah ça y est, mais en France, mais les doigts dans le nez, les femmes elles sont égales aux hommes, ou les trucs des gens qui lâchent vraiment des trucs de ouf, et bah un des trucs que tu peux faire, c'est, et qu'on fait nous, enfin je sais, même si c'est super chiant parce que des fois tu vas te faire insulter et que bah les gens ils sont pas très cool, mais c'est juste de leur expliquer qu'en fait non, bah, c'est pas du tout vrai, et de leur expliquer qu'ils ont tort.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour vos interventions et merci à Plume FM de nous avoir accueillis dans leur studio, sans lesquels cette émission n'aurait pas été possible. Nous espérons que cette émission vous a plu et vous a fait découvrir des choses. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le compte Radio Beaumont News et retrouver cette émission sur le site de Plume FM en podcast. Je vous laisse méditer sur cette citation d'Émile Zapotec. Si tu veux courir, cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Au revoir.